nous écoutions avec vous, avant le journal national, le nouveau directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, Vincent Desmonts. Il nous faisait part d'une grande affluence des pèlerins. Ça y est, les pèlerins et les touristes reviennent. Et nous allons justement faire le point ce matin sur la saison touristique à Toulouse. Une ville rose qui a accueilli, et ça c'est très positif, beaucoup de touristes. Et nous en parlons ce matin avec Jean-Claude Dardelet, qui est adjoint au maire, en charge de la politique touristique de la mairie de Toulouse. Bonjour Jean-Claude Dardelet.
Bonjour Isabelle.
Alors si nous prenons, Jean-Claude Dardelet, l'année 2019 comme référence, comme année de référence, comment cette année 2022 se positionne-t-elle en termes de fréquentation touristique ?
Plutôt bien, plutôt même très bien. On est ravis. Alors évidemment, tout n'est pas toujours simple. On a traversé aussi de nouveaux épisodes. Hein. Bon, en 2019, vous l'avez dit, c'est l'année de référence, l'année de tous les records. Dans une continuité, une croissance que l'on accompagnait, on savait qu'il y avait des mutations sur l'environnement, le verdir, l'accès à l'eau. Et puis la crise Covid nous y a invités encore plus fortement. On avait un plan de relance ambitieux qui nous a permis d'investir, qui nous a permis d'innover. Donc on a développé beaucoup d'activités autour de la Garonne, du canal. Des artistes sont sortis un petit peu des murs. On a créé des petits festivals, des activités, du divertissement. Et puis donc on a investi. Les opérateurs, les hôteliers ont investi aussi parce que le tourisme d'affaires qui occupe quand même 70% du marché du tourisme à Toulouse s'interrogeait un peu sur l'avenir des voyages qui ne se font plus autant qu'auparavant. Et puis en 2020, donc c'était un peu le confinement. On était tous en télétravail. Voilà. Et 2021, en fait, c'était bien reparti. Mi-juin, au moment du déconfinement, de l'abandon des jauges, on s'est aperçu qu'on avait un mois de juillet où les gens revenaient, et puis de toute la France. C'était pas uniquement les habitants d'Occitanie. Donc on sentait qu'il y avait une dynamique, une nouvelle donne qui prenait forme. Et 2022, c'était un peu c'est l'année de, où on observe un peu. Est-ce que la mutation a lieu? Est-ce que des changements? Est-ce quelles sont les demandes? Ces nouvelles demandes que l'on pressentait, ben oui, elles sont là. Et les réponses sont là aussi. Donc on est ravis. Oui, les touristes sont venus. Les étrangers reviennent. Aussi dans des proportions assez importantes. On a même des Américains, des Canadiens, respectivement 3% chacun. Le taux euro-dollar n'y est pas pour rien. Le fait qu'il n'y ait plus de restrictions au voyage non plus. Ça repart bien.
Alors voilà, une bonne nouvelle. Un tourisme qui reprend. Vous le disiez, vous vous êtes adapté à des nouvelles attentes, un besoin d'être connecté à la nature, un besoin d'être, une nécessité de respecter son environnement. Est-ce que vous avez constaté dans les activités qui ont été proposées pour les touristes, certaines qui ont été davantage plébiscitées plutôt que d'autres ?
Oui, alors l'eau, déjà, l'eau. Autour de l'eau, la Garonne, les locations de bateaux, les expériences un petit peu, il y a des tas d'offres sur la Garonne, sur le canal, donc c'est un sujet sur lequel on travaille encore avec le projet du Grand Parc Garonne, de l'île du Ramy, etc. Donc ce sont des investissements ambitieux, très ambitieux, sur le moyen et le long terme. Donc là déjà, les premiers investissements court terme montrent que le choix est bon. On se rend compte que tous les opérateurs qui ont innové ont fonctionné. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, alors on va en reparler sans doute dans un instant. Ensuite, on s'aperçoit que ce qu'on appelle le slow tourisme, vous savez, on vient, on se pose, on ne prend pas sa voiture, on prend son temps, on circule en tuk-tuk ou en bateau ou en petit train, parce qu'on a tous ces modes de déplacement doux. On prend son temps, on profite. Toulouse s'installe comme camp de base, c'est-à-dire les gens viennent en famille, viennent entre amis.
D'où l'activité hôtelière qui
est bien repartie. Et les gens se posent, prennent un bus pour aller visiter le Lauragais, Albi, Carcassonne, etc. Reviennent le soir profiter, mine de rien, de la fraîcheur de Toulouse. On a vécu 4 épisodes de canicule,
oui,
c'est vrai.
Oui, nous allons en parler, oui.
Mais mine de rien, les soirées ont été très actives. J'irais même jusqu'à dire que Toulouse s'hispanise, c'est-à-dire on vit davantage à l'heure espagnole. Alors non pas parce que beaucoup d'Espagnols, plus que d'habitude, sont venus cet été à Toulouse, mais aussi parce que les épisodes de chaleur font qu'entre 14 et 16 heures, les gens font la sieste, se reposent, ne sortent plus trop. Ce qui nous a invités aussi, alors ça a été pas une surprise évidemment, parce qu'on savait que cette période était un peu plus difficile que les autres périodes de la journée, mais on a dû reprogrammer des visites guidées du début de l'après-midi au matin ou au soir. Donc vous voyez, on s'adapte. Voilà, c'est une adaptation permanente et grâce à ça, bien, on a pu maintenir de beaux flux.
Donc une hispanisation, comme vous dites, des activités qui sont plutôt réduites en début d'après-midi et puis des soirées à occuper et à animer pour notre ville rose. Est-ce qu'il y a aussi dans les pratiques touristiques que vous avez constatées cet été à Toulouse, peut-être une demande particulière des touristes sur des activités, sur des animations? Est-ce qu'ils viennent spontanément dans, par exemple, au Jacobin ou au Muséum d'histoire naturelle? Qu'est-ce qui les décide à venir?
Oui, alors ce qui décide à venir, c'est, j'allais dire, le singulier, l'authentique, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. L'immersif, on veut vivre une expérience. Hein, les gens ne viennent plus pour regarder, pour observer, on vient pour vivre quelque chose, vivre un moment. Voilà. Donc on s'aperçoit que nos sites qui ont investi, qui ont mis en place des expositions, un petit peu originales, alors je pense évidemment à l'ensemble conventuel des Jacobins, hein, avec l'exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge. Qui fonctionne jusqu'au mi-septembre, hein, 18
oui,
septembre.
18.
Donc là, on a une hausse des entrées de plus de 40%.
Oui.
Voilà, donc c'était une expérience intéressante. Pareil, en parlant d'expérience immersive, celle du monde de Van Gogh, au Bazac. Là, c'est plus de 1000 personnes par jour. C'est, comme diraient mes enfants, c'est blindé.
C'est blindé.
Donc ça fonctionne bien. L'exposition le mystère de Mitra au musée Saint-Raymond aussi, donc plus de 5000 visiteurs en juillet, c'était 4000 en 2019. Vous voyez, par rapport à 2019, certains lieux ont augmenté de 25% leurs entrées, donc c'est pas rien.
Une exposition qu'on peut voir, pardon, je vous coupe, jusqu'au 30 octobre.
Oui, hein, oui, elle est fantastique aussi. La Cité de l'Espace n'a pas été en reste, puisque alors, dans l'espace, l'innovation, il y en a en permanence, même si on a l'impression que l'espace ne bouge pas beaucoup, il y a toujours de l'actualité dans l'espace. Mais là, dans cette dynamique des nocturnes, vous savez, au mois d'août, on a toujours 4 nocturnes, les jeudis soirs, là, on est passé à 6. Donc on a eu des entrées à 3000, 5000, 6000 personnes. La nuit des étoiles, le 18 août, c'était 6000 entrées. On a eu 7000 réservations. Enfin voilà, c'est ce qui était, comment dire, un record à l'époque, hein, 3000 entrées. Quand on faisait 3000 entrées à cet espace, on était content. Là maintenant, 4, 5000, ça devient banal. Donc on s'adapte, on accueille, voilà. Ça fonctionne.
Ça fonctionne. Vous parliez de canicule, de forte chaleur et notamment de cet attrait pour l'eau. Comment, indépendamment des activités sur la Garonne et sur le canal du Midi, comment la ville de Toulouse s'adapte-t-elle à ces changements climatiques?
Alors bon, ça c'est effectivement, c'est d'investissement un petit peu au long terme aussi, urgent. Oui. Voilà, il faut des investissements qui fassent sens dans l'urgence. Donc c'est... Voilà. Donc on plante des arbres, hein. Il y a un projet d'investissement de 100 000 arbres. Les aménagements du quai de la Garonne donc, ont été terminés il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Là aussi, ça attire les gens. Vous savez, la Garonne, historiquement, était une menace, les inondations. On tournait le dos à la Garonne.
Oui.
Voilà, là maintenant, on retourne le dos un peu à la ville, on se rapproche de l'eau et de la fraîcheur. Et puis je vous dis, c'est ces expériences immersives, vous allez à Venerve, vous prenez un canoë, vous redescendez jusqu'à la Croix-Falgarde en 3 heures. Voilà, vous allez à la campagne, vous revenez le soir. Donc c'est avec des coopérations avec les villes environnantes, les départements environnants. On a de plus en plus d'interconnexions avec le rural environnant. Et c'est ces liens ruraux-urbains que l'on développe aussi dans l'économie, mais aussi dans le tourisme, aussi dans la vie de tous les jours.
Donc avec un réseau de bus qui se développe,
avec des transports,
circuits
courts d'alimentation, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les guinguettes, etc. On sert du local, dans les cantines toulousaines aussi. Vous voyez, donc quand on parle d'économie circulaire, il y a d'économie vertueuse, c'est tous les jours, c'est... chez les touristes, pour les touristes, c'est ça aussi qu'ils viennent chercher.
Et une adaptation aussi peut-être au niveau des piscines?
Alors les piscines, c'est effectivement une question, on cherche l'eau quand il fait très chaud. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est en train de réfléchir pour les années suivantes. Parce que quand on écoute nos climatologues, ils nous disent que ce qu'on a vécu cet été pourrait bien être un point bas. Auquel il va falloir s'habituer. Alors évidemment, on y pense depuis un certain temps et on regarde si on peut ouvrir des piscines plus tard le soir, faire avoir des expériences plus de nuit. Voilà. Après, ça interroge aussi sur le modèle économique, sur les personnels à trouver. La notion de recrutement est quelque chose, après cette période Covid, on s'aperçoit que d'une manière générale, tout le monde veut vivre autrement et c'est très bien. donc s'interroge sur sa relation à la vie, au travail. C'est un sujet, hein. Les restaurateurs, les hôteliers ont beaucoup de mal à recruter. Donc on a une école d'hôtellerie qui fonctionne remarquablement à Toulouse. On forme des gens, donc j'invite tous ceux qui veulent avoir, suivre ces formations à rester à Toulouse pour, mmh. pour les suivre. Et il y a de l'emploi, il y a beaucoup de belles choses à faire.
Oui. Ah oui. Vous nous disiez que les touristes qui ont fréquenté la ville rose cet été, il y avait parmi eux des Américains, mais il y a quand même une majorité de Français.
Alors majorité de Français, quand on regarde, si je prends les chiffres au niveau de l'Office du tourisme, on s'aperçoit que sur c'est un ratio 60-40, 60% de Français, 60% pardon, d'étrangers viennent à l'Office du tourisme, les Toulousains viennent assez peu à l'Office du tourisme,
ils connaissent
un petit peu la Toulouse, voilà. 60% d'étrangers, c'est plus que les autres années, hein, on est là-dessus, le taux de tourisme est important. 40% de Français, sur les 40% de Français, on va dire des gens d'Occitanie, très bien, mais de partout en France de manière assez uniforme. Des Parisiens, du Grand Est, du Nord, de la Bretagne, du Sud, voilà, assez équitablement répartis.
Donc notre région est une région qui attire de la France entière et puis de l'étranger. Mm-hmm. Je profite de votre présence, Jean-Claude Dardelet, puisque vous êtes aussi chargé des relations avec les villes jumelées, dont Kiev. Depuis 6 mois, certaines familles ukrainiennes sont hébergées dans la ville rose. Je voulais vous demander, comment ont-elles passé l'été ?
Alors, elles ont bien passé l'été, autant que possible, autant que les circonstances. Parce que vous savez, quand là, on a accueilli cet été, alors on a double, les centres de vacances de Toulouse, depuis de nombreuses années, j'allais dire une quinzaine, vingtaine d'années, accueillent des jeunes Ukrainiens du fait du jumelage. Donc, on accueille une vingtaine par an dans nos centres à Aulus-les-Bains.
Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existait.
Ça existait. Cette année, on l'a doublé. On a accueilli près de 40 jeunes qui sont venus avec des psychologues cette année parce que certains de ces enfants n'avaient plus de parents. Certains enfants, au dernier moment, n'ont pas pu venir parce que il n'y avait plus de papa pour signer l'autorisation de sortie. Voilà. Donc, des situations difficiles. Donc, les Toulousains qui étaient là ont aussi participé à tous ces échanges. On a déplacé la statue de Taras Shevchenko, qui est le Victor Hugo de l'Ukraine, un petit peu autonome, où on a fait un événement le 24 août, la fête nationale de l'Ukraine, qu'on a célébré. Alors, traditionnellement, en Ukraine, elle est célébrée au travers d'un pique-nique, un petit peu de partage. Donc, on l'a fait à la Cité de l'Espace. On a accueilli 300 de ces Ukrainiens que l'on accueille à Toulouse. Or, sur Toulouse, il y a à peu près, on va dire, 900 Ukrainiens qui sont là, qui sont avec nous.
Principalement des familles.
Alors des familles, effectivement, femmes, enfants.
Avec enfants. Mmh.
On a plus de 2000 familles toulousaines qui ont proposé des logements à accueillir chez eux des Ukrainiens. Donc je vous dis un peu moins de 1000 avec donc... Des jeunes et des enfants. Alors, avant l'été, on entendait, vous savez, toujours des gens qui crient au drame qui pourrait arriver et qui n'arrive pas toujours, bien heureusement, puisqu'on les anticipe aussi, en disant les Français vont partir en vacances
et abandonner leur famille.
Il y a eu deux cas. Alors, deux cas qui ont été traités très rapidement. Les gens ont dit, on a des difficultés. Une autre famille a pris en charge et ça s'est très bien passé. Donc, globalement, c'est pas facile pour eux. On est toujours très solidaires et on continue nos actions d'accueil. Donc, les centres d'urgence sont toujours là. La scolarisation des petits Ukrainiens, il y en a plusieurs dizaines qui sont dans les écoles primaires, sont accueillis. On leur donne un kit scolarité. Ils ont tout le matériel.
Ils ont fait leur première rentrée scolaire.
Ils font leur première rentrée scolaire. Ils ont fait une première demi-rentrée quand ils sont arrivés plus tôt dans l'année. Et là, la vraie première rentrée. On accueille, on accompagne des familles aussi dans leur quête d'emploi, dans les formations. Vous voyez, la ville est vraiment... Beaucoup de services de la ville sont engagés.
Partie prenante. Ouais. Merci beaucoup Jean-Claude Dardelet. Merci pour ces deux points ce matin.